VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du jeudi 29 octobre 2015. Au sommaire ce soir, République centrafricaine, Bangui de nouveau en proie à la violence.
Des violences éclatées suite à l'assassinat dans la matinée de ce jeudi à Fatima de deux musulmans habitants de Pika 5 alors qu'ils sillonnaient le secteur à la recherche, dit-on, de leur moto volée.
Le président Alassane Ouattara fier de sa réélection en Côte d'Ivoire.
Je m'en réjouis, j'en suis très fier. Je suis surtout fier de mes compatriotes. D'abord la confiance renouvelée, mais aussi le caractère apaisé de cette présidentielle.
Un entretien accordé à notre envoyée spéciale, Tatiana Mosso. Réunion internationale sur la crise syrienne demain à Vienne, avec pour la première fois la participation de l'Iran. En Chine, les familles pourront maintenant avoir plus d'un enfant. Cette politique gouvernementale a été officiellement abandonnée aujourd'hui. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants a un nouveau patron, Paul Ryan. Il remplace aujourd'hui le président sortant, John Boehner. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
La République centrafricaine, de nouveau plongée dans l'incertitude et la panique, alors qu'une forte psychose règne à Bambari, au centre-est du pays. De nouvelles violences ont encore ensanglanté la capitale, Bangui, ce jeudi, plus particulièrement les 3e et 6e arrondissements. On écoute la correspondance de Freeman Sipila.
Cette fois-ci, ce sont les quartiers Fatima, Pétain et Fodé dans le 6e arrondissement qui ont été fortement touchés par cette nouvelle escalade de violence. Des violences éclatées suite à l'assassinat dans la matinée de ce jeudi à Fatima de deux musulmans habitants de Pika 5 alors qu'ils sillonnaient le secteur à la recherche, dit-on, de leur moto volée. La tension est encore au pic malgré le survol du secteur par un hélicoptère de la force française Sangaris et l'arrivée tardive des forces internationales sur la scène. Par ailleurs, la psychose est plus grande à Bambari, au centre-est du pays, à la suite d'un ultimatum de 24 heures lancé au gouvernement par l'UPC, le groupe armé actif dans la région. L'UPC accuse Bangui de ne pas assurer la sécurité de ses éléments attaqués au début de la semaine, non loin de l'aéroport. Elle exige donc au gouvernement de retrouver dans le délai ses deux bras droits portés encore disparus dans la capitale. Cette menace a contraint la MINUSCA à cantonner sur place son personnel à Bambari et obligé plusieurs personnes à regagner des sites des déplacés ou les cachettes en brousse. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et toujours en RCA, la présidente intérimaire Catherine Samba-Panza a procédé à un remaniement du gouvernement. Notre correspondant Thierry Anatole Bomba revient sur les principaux changements.
Joseph Bindoumi, de la société civile, devient ministre de la Défense. L'ancien ministre de la Sécurité, Dominique Saïd Paguindi, devient ministre de la Justice. L'ancien directeur général de la Gendarmerie nationale, Sandia, devient ministre de la Sécurité. Armel Sayo, qui auparavant était ministre de la Jeunesse et Sport, repart au ministère de l'Habitat et du Logement. Carnot Samedi, deuxième ministre de la Jeunesse et Sport, et les anciens ministres de la Défense, Aristide Sokambi et Marinel Koyara, reprennent respectivement les départements des mines et du développement rural.
Par ailleurs, le nouveau chronogramme électoral fixant les dates des scrutins législatifs et présidentiels sera examiné demain.
Les États-Unis ont félicité aujourd'hui le président réélu de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour ce qu'ils appellent sa victoire significative à l'issue d'un scrutin crédible et démocratique et ont plaidé pour la réconciliation dans ce pays francophone d'Afrique de l'Ouest. En seconde partie d'émission, un entretien de notre envoyé spécial Tatiana Mosso avec le président ivoirien.
Et 7 djihadistes ont été tués hier soir lors d'affrontements avec l'armée malienne dans la région de Mopti, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce que rapporte l'AFP. Au Rwanda, les députés ont adopté à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution permettant au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017, a constaté un journaliste de l'AFP.
Un Mauritanien libéré de la prison militaire américaine de Guantanamo, Ahmed Oul Abdelaziz, a été transféré dans son pays d'origine, assure le ministère américain de la Défense.
Et des rebelles lourdement armés ont enlevé 12 contractuels acheminant de l'équipement à des casques bleus au Soudan du Sud. Sud. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole des Nations Unies, appelant à leur libération. Ce groupe de rebelles avait enlevé 20 casques bleus qui ont ensuite été libérés en échange d'une barge transportant du carburant, des armes et de l'équipement sur le Nil, au nord de la ville de Malakal.
En Tanzanie, les résultats de la présidentielle sont connus. Le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, l'emporte. La commission électorale l'a annoncé ce jeudi. Le point avec John Linden.
Le candidat du parti au pouvoir a obtenu 58,46% des suffrages exprimés contre 39,97% pour son rival, l'ancien premier ministre et camarade de parti Edouard Lowassa, qui a rejoint les rangs de l'opposition. Une opposition qui tout de suite a rejeté ces résultats, estimant que les chiffres avaient été falsifiés. Sauf recours, John Magufuli, ancien ministre des Travaux publics, succède donc à Jakaya Kikwete, qui n'était pas candidat du fait de la limite du nombre de mandats imposés par la constitution tanzanienne. Dans sa campagne, John Magufuli a prôné le changement, un changement qui, disait-il alors, doit commencer par l'éradication de ce fléau dévastateur qu'est la corruption. Et si John Magufuli a choisi de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, c'était non seulement pour gagner la confiance des électeurs, pari gagné donc, mais aussi et surtout pour redorer l'image de la Tanzanie, émaillée ces derniers temps par de nombreux scandales financiers.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, réunion internationale sur la crise syrienne demain à Vienne avec pour la première fois la participation de l'Iran. Les précisions avec Dili Diko.
Cette réunion internationale aura pour objectif de tenter de trouver une solution politique au conflit en Syrie. Pour la première fois, l'Iran participera aux discussions avec la Russie, la Turquie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Téhéran sera représenté à Vienne par son premier ministre Mohamed Javad Zarif. C'est un véritable tournant diplomatique voulu par Moscou, soutien clé de Damas, qui insiste depuis le début des conflits en Syrie sur la participation de l'Iran aux discussions. Mais les États-Unis s'y opposaient fermement avant d'amorcer une inflexion surprenante de leur position. Les pourparlers ont repris aujourd'hui entre les chefs de diplomatie de quatre pays, le russe Sergei Lavrov, l'américain John Kerry, le saoudien Abdel Al-Jubeir et le turc Feridun Sinirglioglu. Cette rencontre préalable planche sur les perspectives d'un règlement en Syrie où la guerre civile a fait plus de 250 000 morts depuis 2011.
Au Yémen, un raid aérien de la coalition menée par l'Arabie Saoudite a fait 10 morts dans la ville de Taiz, dans le sud-ouest du pays. Des sources médicales que cite l'agence Reuters affirment que le bombardement a atteint un bus transportant des travailleurs vers une usine locale. La bataille fait rage entre la coalition saoudienne et les rebelles houthis pour le contrôle de Taiz, la troisième ville du Yémen.
Ici aux États-Unis, Paul Ryan est le nouveau président de la Chambre des représentants, dominée par les Républicains. Ce conservateur bon teint de 45 ans a été élu ce matin par ses collègues pour succéder à John Boehner, démissionnaire. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Monsieur Ryan, par son élection au perchoir, devient automatiquement le troisième personnage de l'État. L'ancien colistier de Mitt Romney face à Monsieur Obama et Joe Biden à la présidentielle de 2012 a été élu avec 236 voix contre 184 pour la démocrate Nancy Pelosi. 9 des 247 républicains ont voté pour le conservateur Daniel Webster. Paul Ryan a exhorté les factions au sein de son parti ainsi que ses collègues démocrates, souvent en désaccord profond sur un vaste éventail de questions budgétaires et fiscales, à se ressaisir. La Chambre est grippée, nous ne résolvons pas les problèmes, nous en créons de nouveaux, a-t-il déclaré.
Toujours aux États-Unis, un avion de la compagnie Dynamic Airways qui devait se rendre au Venezuela a pris feu cet après-midi sur la piste de l'aéroport de Fort Lauderdale, 43 km au nord de Miami. Les autorités font état de 7 blessés au moins. L'incendie ne s'est pas propagé et les passagers ont été évacués.
La Chine va permettre à tous les couples d'avoir 2 enfants. C'est ce qu'a affirmé le comité central du Parti communiste. Cette décision met un terme à des décennies de politiques restrictives, limitant la plupart des familles urbaines à 1 enfant. Jacques Aristide.
Beijing annonce donc à la fin de la politique dite de l'enfant unique en vigueur depuis 1979. La décision a été prise lors du 5e plénum du comité central du PCC qui a pris fin aujourd'hui après 4 jours de travaux. La proposition fait partie du 13e plan quinquennal de la Chine pour la période 2016-2020. Le gouvernement chinois avait déjà assoupli certaines restrictions en novembre 2013, quelques mois après l'arrivée de Xi Jinping à la tête du pays, permettant aux Chinois d'avoir 2 enfants si l'un des 2 parents était lui-même enfant unique. Mais nombre de couples éligibles n'avaient pas pris avantage de cet assouplissement, invoquant les dépenses et la pression d'élever des enfants dans une société hautement compétitive. La politique de l'enfant unique prévoyait de lourdes amendes et de sévères punitions pour les couples qui enfreignaient la loi, y compris l'avortement forcé, des mesures devenues au fil des années une source de mécontentement en Chine.
Le Parlement européen a attribué ce jeudi son prestigieux prix Sakharov pour la liberté de l'esprit au blogueur saoudien de 31 ans, Raif Badawi. Emprisonné depuis 2012 dans son pays, il a été condamné en 2014 à 10 ans de prison et de la flagellation pour insulte envers l'islam.
Ralentissement de la croissance économique aux États-Unis. De juillet à septembre, l'économie a progressé de façon modeste à 1,5%, nettement moins que les 3,9% enregistrés au deuxième trimestre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Selon nos confrères de Jeune Afrique, la société Suez sera responsable de la production et de l'assainissement de l'eau de la ville d'Éco-Atlantique le long de l'île Victoria à Lagos au Nigeria. Ce projet de bureaux et de logements développé par l'entreprise South Energix devrait également présenter un site de traitement des déchets qui lui aussi serait géré par Suez. En 2014, cette compagnie avait remporté la construction d'une usine d'eau potable pour alimenter Karchi dans la banlieue d'Abuja. Le groupe indien Tata Group va construire un hôtel 5 étoiles à Abidjan et espère décrocher une commande de 500 bus auprès de la compagnie publique de transport abidjanais. Créée en 1903, Taj Group, la filiale du groupe Tata qui serait en charge des travaux, contrôle 108 hôtels en Inde et 17 établissements à l'international. Et sur le continent, la filiale hôtelière de Tata est déjà implantée en Afrique du Sud et en Zambie.
La Minute Éco, merci Anastasie.
L'actualité sportive ce soir avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
On va parler ce soir de Didier Drogba. Il paraît qu'il se sent assez bien à Montréal.
Oui, déjà distingué au mois de septembre, l'attaquant ivoirien a été désigné joueur du mois d'octobre en MLS, le championnat nord-américain de football, auteur de 4 buts en 5 matchs ce mois d'octobre. Le roi des éléphants a poursuivi sur sa lancée en septembre avec 7 buts en 6 matchs, menant l'Impact de Montréal, son club donc, vers sa seconde participation aux éliminatoires depuis l'entrée du club dans la Major League nord-américaine en 2011.
Et 37e championnat d'Afrique des clubs champions de handball.
Oui, hier soir donc en demi-finale homme, le Zamalek a battu l'Espérance 34-33. Le club africain a eu raison d'Alexandria 29-23 en demi-finale dames. Les Angolaises du Petro ont battu les FAP, les forces armées et de police du Cameroun 28-20 et Africa Sport a perdu face au Primero d'Angola 21-31.
Basket professionnel aux États-Unis et au Canada, NBA.
Oui, après leur défaite mardi, les Cavaliers de Cleveland, l'équipe de LeBron James se redresse et bat Memphis 106-76. Match serré, mais belle victoire 112-106 des Thunder d'Oklahoma contre les Spurs de San Antonio. Je crois que c'est votre club. Hein?
Oui, quand mon équipe perd, ça ne peut pas être une belle victoire pour l'autre équipe. Hein? Il ne faut pas le dire.
Ah ben, chacun voit midi devant sa porte. Hein? Et victoire de Boston sur Philadelphie, 112-95, 88 pour les Wizards de Washington contre Orlando, 87. C'était quand même une victoire serrée pour Washington.
À l'arraché, à 12 secondes de la fin, John Wall marque. Victoire pour Washington.
Et défaite de Utah, 87 face à Détroit, 92. Victoire des Heat de Miami sur les Charlotte Bobcats, 104 à 94. Toronto a eu raison d'Indiana, 106 à 99. 105 pour Denver face à Houston, 85. Et enfin, Chirouin, nouveau succès des Bulls de Chicago face au Brooklyn Nets, 115 à 100.
Après une première victoire contre LeBron James et les Cleveland Cavaliers. Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, la Côte d'Ivoire.
Alassane Dramane Ouattara, réélu président avec 83,6% des suffrages. Une victoire sans appel. Au micro de Tatiana Mosso, il se dit fier de cette élection.
Je m'en réjouis, j'en suis très fier. Je suis surtout fier de mes compatriotes. D'abord la confiance renouvelée, mais aussi le caractère apaisé de cette présidentielle. Depuis 1990, la Côte d'Ivoire n'a pas eu d'élection véritablement apaisée. Il y a eu toujours de la violence. Donc je suis un homme heureux, voilà.
Un homme heureux, justement, pour un second mandat, oui. Plein de défis. Il y a le défi de réformer la Constitution. Pourquoi avoir attendu d'être réélu pour le faire?
Mais d'abord, nous avions du travail. Une Constitution se modifie par référendum. Vous savez, il fallait laisser la situation s'apaiser. Cette Constitution a été conçue en une période de crise. Après un coup d'État militaire, elle a été manipulée par un groupe de gens qui ont utilisé les militaires pour faire toutes ces exclusions. Par conséquent, je voulais laisser la situation s'apaiser, d'autant plus que nous avions les décisions de Marcoussi qui ont quand même été adoptées par le Conseil de sécurité. Donc, en réalité, il n'y avait pas de problème. Mais je vais aller au-delà de la nationalité et de l'éligibilité en proposant une nouvelle Constitution pour une troisième République avec une plus grande cohérence, une constitution plus moderne, plus adaptée à notre temps et également au futur de ce que nous voyons comme importance pour le futur de la Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous sentez que la Côte d'Ivoire est prête à entrer dans une troisième république?
Ah oui, tout à fait, parce que cette élection en est la preuve. J'ai indiqué à mes concitoyens que je veux un Ivoirien nouveau. Cela veut dire un Ivoirien qui respecte l'état de droit, qui est d'accord pour l'égalité des citoyens, qui veut que le travail, le mérite, la compétence soient reconnus, et ainsi de suite. C'est le bon moment de commencer à travailler sur cette nouvelle constitution.
Alors l'autre challenge de ce second mandat, c'est la réconciliation nationale. Comment est-ce que vous allez vous y prendre?
Je crois que nous avons beaucoup fait en matière de réconciliation. Comme j'ai eu à le dire, la réconciliation est une affaire pour chaque citoyen. Parce que nous avons tous vécu des moments difficiles pendant ces années. Et d'abord, pour se réconcilier, il faut le vouloir. C'est une affaire qui vient du cœur. Il faut faire en sorte qu'on accepte de pardonner, qu'on pardonne les uns les autres. Et en fait, ensuite, il y a deux grands volets. Il y a le volet, bien sûr, de la justice, qui doit être égal pour tous, éviter l'impunité. Et nous sommes en train de faire cela. Ça va prendre du temps, ça a pris du temps. Trop de temps à mon goût, mais je constate parce que la justice est indépendante. Et le deuxième volet, c'est les victimes et leurs proches. Nous avons commencé l'indemnisation des victimes et cela se passe bien.
En matière de réconciliation, quel mot diriez-vous aux gens qui n'ont pas voté pour vous?
C'est l'expression donc, de la liberté de vote de chacun et que ceci étant la majorité à voter, 84% de ceux qui ont voté pour moi. Néanmoins, je suis le président de tous les Ivoiriens, sans exception, sans discrimination. D'ailleurs, je l'ai démontré pendant mon premier mandat. J'ai visité chacune des 31 régions de Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire telle région n'a pas voté pour moi. Et nous avons exécuté les projets avec la même ampleur. Les questions d'eau, d'électricité, de santé, d'école, nous avons fait la même chose partout.
Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, au micro de Tatiana Mosso, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition a appelé à une marche pacifique demain pour contester les résultats du référendum qui permet au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Par ailleurs, des leaders de l'opposition sont toujours en résidence surveillée. Idriss Fall a pu joindre l'opposant Guy Parfait Kolela, assigné à résidence à Brazzaville.
Je suis toujours en résidence surveillée, ça fait plus d'une semaine, depuis le 20 octobre. Je suis privé de mes mouvements parce que je suis entouré par la garde présidentielle armée jusqu'aux dents, cagoulée, qui ne me laisse pas sortir du périmètre de ma résidence, qui laisse à peine rentrer les vivres pour qu'on me ravitaille avec les 30 compagnons qui sont ici à la résidence. Moi, qui étais venu me voir, je suis retrouvé ici, bloqué. Entre-temps, j'étais ici en résidence surveillée avec le vice-président du Conseil économique et social, un membre de notre mouvement et puis un notaire aussi. Mais eux, ils ont été libérés. C'est moi, seul avec mes 30 compagnons, qui sommes restés en résidence surveillée.
Tout ceci parce que vous êtes contre le tripatouillage de la constitution de votre pays.
Oui, tout ceci parce que je suis contre ce coup d'état constitutionnel. Nous avons même demandé à ce qu'on puisse résoudre les véritables problèmes, c'est-à-dire la gouvernance électorale, que les élections au Congo soient désormais libres et transparentes, qu'il y ait un bulletin unique, qu'il y ait des cartes biométriques. La preuve, avec ce référendum, il y a eu tripatouillage. On ne peut pas accepter qu'il y ait 72% de participation alors que tout le Congo était, toutes les rues dans toutes les villes étaient vides. Au Congo, il n'y a jamais eu des élections qui ont atteint ce pourcentage ces derniers temps. Même les élections législatives locales ne dépassent pas 10%, voire 15%. Mais avec la ville morte, avec tout ce qui s'est passé, les gens nous ont déplacés. On nous sort de 1% de 72%, c'est truqué.
L'avenir pour vous, c'est quoi?
L'avenir, nous avons en face un pouvoir qui est sourd. Nous allons faire de tout notre mieux pour qu'il y ait des idées mortes, que nous manifestions pacifiquement. Et que nous demandons un dialogue inclusif et nous allons regarder tous les problèmes sans tabou. Nous demandons à la classe politique au pouvoir en place d'ouvrir un dialogue national inclusif où nous allons regarder froidement tous les problèmes en présence des organisations comme l'Union africaine, l'EIF. Hein, c'est ce que nous demandons.
Guy Parfait Kolela, signé à résidence à Brazzaville.
Les Burkinabés commémorent ces 30 et 31 octobre 2015, le premier anniversaire de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors qu'il était resté indéboulonnable pendant des décennies, deux jours d'insurrection ont suffi, fin octobre 2014, à le contraindre à abandonner le pouvoir et à prendre la fuite après 27 ans de règne. Guy Hervé Kam, porte-parole du mouvement Le Balai Citoyen, revient sur la chute de Blaise Compaoré.
À l'époque, nous étions convaincus d'une chose, c'est que Blaise Compaoré devait partir. C'était d'ailleurs notre slogan « Blaise dégage ». Mais pour dire les choses franchement, non, nous ne sommes pas convaincus que ça pouvait se jouer en 48 heures. Nous avons dit que la lutte pouvait être longue, mais quel que soit le temps que ça devait prendre et quelles que soient les conséquences, dès lors que Blaise Compaoré avait lancé son projet, pour nous, il n'était plus légitime et il fallait qu'il parte. Mais bon, il faut avouer que les choses se sont réellement précipitées.
Avec du recul, hein, comment on peut expliquer cela?
Ce qui est allé au-delà des attentes de tout le monde, c'est vraiment la mobilisation générale du peuple burkinabé. On savait que, dans sa grande majorité, le peuple n'était pas prêt pour ce mandat de trop, mais on n'avait pas du tout sans doute prévu que ce peuple-là allait comme un seul homme se mettre dans la danse. Je pense que c'est l'ampleur de la mobilisation quand nous-mêmes, nous avons vu ça le 28, nous nous sommes dit, c'est maintenant ou jamais.
Ça fait un an déjà, hein. Que représente pour vous cet anniversaire-là, les dates du 30 et 31 octobre?
Cet anniversaire a pris encore de l'ampleur avec les événements que nous avons vécus un peu plus d'un mois. Donc, qui fait que nous restons convaincus que les événements des 30 et 31 octobre sont en réalité le résultat de la maturité politique du peuple burkinabé, mais surtout de l'attachement du peuple burkinabé à la démocratie. Je pense que un an après, c'est vraiment ce sentiment-là qui peut animer.
La transition a connu beaucoup de difficultés, mais est-ce qu'elle a répondu à vos attentes, aux attentes de la jeunesse burkinabé?
Pour nous, la principale mission de la transition, c'était de jeter les bases de la refondation de la société burkinabé. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On peut se dire qu'elle aurait pu faire encore mieux, mais j'avoue qu'en un an, le plus important, c'était de jeter les bases. Le plus important, c'était des réformes. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions choisi une transition de un an à lieu et place d'une transition toute élection où on allait faire les élections dans 2 mois ou 3 mois. De ce point de vue-là, je pense que la transition a fait beaucoup de choses et il reste encore quelques détails à régler, c'est-à-dire la question de la modification de la Constitution. Si ça s'est fait avant de transmettre le pouvoir à une autorité élue, la transition aura réussi.
Guy Hervé Cam, porte-parole du mouvement Le Balai Citoyen au Burkina.
Soudan du Sud, l'Union africaine dénonce l'extrême cruauté des combattants des deux camps, cannibalisme forcé, viol et autres actes inhumains. Les belligérants de la guerre civile devront rendre des comptes. Pour une réaction, Nicolas Pinault a joint la chercheuse Jeanne Henry de Human Rights Watch.
Le rapport caractérise les crimes comme des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il confirme la gravité des crimes qui ont eu lieu depuis le début du conflit. Il recommande la création des mécanismes de justice menés par les juristes africains. Il est conforme avec l'accord de paix de IGAD qui a été négocié et signé par les parties en août.
Comment on peut expliquer autant de violence?
Comme la commission a trouvé qu'il y a une dimension ethnique qui ressort dans cette violence au Soudan du Sud. C'est vrai que lisant le rapport, ça fait du mal. C'est horrible les choses qui ont été documentées par eux. Et depuis le début de la guerre, nous avons trouvé aussi des viols et les crimes qui sont peut-être les crimes contre l'humanité, qui sont très très graves. C'est pas partout dans le pays, mais c'est dans une grande partie du pays. Les effets aux civils au Sud-Soudan sont vraiment atroces.
Le rapport ne suit pas l'une des recommandations de l'un des rapporteurs, qui était d'exclure de toute transition le président Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar, ainsi que tous ceux qui sont évidemment derrière la situation actuellement au Soudan du Sud. Est-ce que vous le regrettez?
Il n'a pas suivi cette recommandation, c'est vrai, mais il n'a pas exclu cette recommandation non plus. Il y a un paragraphe là où au moins en anglais, c'est clair que c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver. Mais c'est vrai que ce n'était pas un des recommandations principales. Par contre, ils ont suggéré des recommandations par rapport à justice qui sont bien, je crois, qui sont logiques. Maintenant que le rapport est publié, est sorti dans le domaine public, que l'Union africaine et l'ONU et les autres gouvernements qui soutiennent la paix au Soudan doivent prendre des mesures maintenant et non pas plus tard, mais maintenant pour mettre en œuvre ces mécanismes de justice.
C'était Jeanne Henry de Human Rights Watch.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin, assistée de Zorniak à la console. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.